France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous Fasse en direct jusqu'à 11h. Et ce matin avec le magazine Philosophie Magazine, comment tout recommencer dans sa vie, en amour, au travail, nos vies structurées autour d'éternels retours, les lundis matins plus ou moins chagrins, les déclarations de revenus, les courses du week-end, les anniversaires, Noël, les vacances d'été, les feuilles mortes en automne, les orages d'été, les déjeuners du dimanche, les routines de couple, familiales, scolaires, des routines plus ou moins pesantes. Nous avons tous la tentation de tout reprendre de zéro. Alors comment trouver la force de briser ces routines sans sombrer dans l'obsession de la nouveauté? C'est ce que nous verrons avec nos invités. Nous verrons comment trouver les forces pour oser tout recommencer. Et vous, comment avez-vous fait pour tout recommencer dans votre vie, sans regret, dans tous les domaines de votre existence? Nous vous attendons au standard et sur WhatsApp, pardon, au 01 45 24 7000 sur l'appli Radio France, sans oublier la page Facebook de l'émission. Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, la vie quotidienne mode dans
France Inter. Grand Bien Vous Fasse, Ali Rebbi.
Bonjour Anne-Sophie Moreau.
Bonjour.
Philosophe, normalienne, rédactrice en chef de philomac.com, directrice de la rédaction de Philonomiste, le média de Philosophie Magazine dédié au monde du travail, avec à la une du nouveau numéro de Philomag, Comment tout recommencer. Bonjour Philippe Gabillier.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de psychologie et de management à l'ESCP Business School à Paris. Vous êtes également conférencier, coach de vie, et vous avez publié un livre hélas épuisé, L'art de changer de vie en 5 leçons. Et en mars prochain, vous publiez aux éditions Saint-Simon un très bel essai, court essai, La fabrique du destin. On est toujours plus libre qu'on le croit. Philippe Gabillier, on est toujours plus libre de tout recommencer qu'on ne le croit. Pourtant, la notion de libre-arbitre fait débat, hein, chez les philosophes notamment. Mais on est plus libre qu'on ne le croit de tout changer dans sa vie, de tout recommencer.
L'idée, en fait, elle est là. C'est dire que nous vivons effectivement dans un monde de déterminisme, bien que je pense que les déterminismes ont évolué au fil des siècles. Le libre-arbitre, c'est un vieux thème de philo sur lequel des tas d'étudiants ont souffert pendant des années. En revanche, il est clair qu'on ne peut pas tout recommencer, mais le peu qu'on peut recommencer peut tout changer. Voilà. C'est en vrai, je pense que la bonne façon de prendre le problème est celle-là, sachant que ce qui est la première question d'ailleurs quand on veut tout changer, c'est de se dire, alors qu'est-ce que je peux pas recommencer? Mais par exemple, voilà, j'ai un corps, j'ai un âge, j'ai une personnalité, j'ai aussi, on va dire, un historique de navigation, hein, il m'est arrivé des choses. Il y a des choses, je dirais, je vais devoir faire avec, mais en revanche, je peux redémarrer un jeu, redémarrer une autre histoire peut-être, avec ce que j'ai.
Pour beaucoup, Philippe Gabillier, l'idée de recommencer, c'est avoir le courage de renoncer, et pour vous, au contraire, c'est avant tout avoir l'audace de préférer.
Oui, en fait, il faudra un moment ou un autre traiter les deux. Hein. Bon, c'est vrai, mais il vaut mieux quand même peut-être démarrer par la préférence. Je préférerais vivre comme ça, comme ça et comme ça. Mais pour pouvoir vivre comme j'aimerais vivre, peut-être va-t-il me falloir renoncer à un certain nombre de lieux, peut-être même parfois à un certain nombre de gens, peut-être même à une partie de moi que... On ne peut pas ne pas oublier ce que l'on sait, mais on peut décider de laisser en friche un certain nombre de choses qui ne nous servent plus ou qui ne nous apportent plus de plaisir. Donc, mais en fait, je trouve que la motivation de préférence pour une vie autre, sur le long terme en tout cas, est peut-être plus saine que le renoncement, même si il y a toujours un prix à payer face à une préférence.
Anne-Sophie Moreau, c'est vertigineux de se dire qu'il est possible de tout recommencer, sa vie professionnelle, personnelle, sa vie tout court, ses amours.
Oui, bien sûr. Pourquoi ? Parce que on a peur pour commencer, c'est-à-dire que on est chacun englué de manière, on va dire, plus ou moins morbide, plus ou moins triste, dans des habitudes qui nous sclérosent, qui s'ancrent dans nos corps. Voilà, parfois, le matin, lorsqu'on fait des choses, on ne sait même plus pourquoi on les fait. On allume l'interrupteur, la machine à café dans tel ou tel ordre. Henri Bergson, il dit que nos habitudes, c'est un petit peu comme du mécanique qui vient solidifier nos gestes. Donc on a perdu, en fait, le caractère naturel, dynamique de la liberté, de la spontanéité. Donc c'est difficile, d'une part, de sortir de ses habitudes. Ensuite, effectivement, ça peut nous terrifier, l'idée de changer de vie. Et je dirais qu'il y a une troisième raison pour laquelle on rechigne à changer ses habitudes ou carrément son existence. C'est aussi le fait qu'il y a une forme de jouissance aussi dans la répétition. Ça, c'est la théorie de Freud qui considérait que ce qu'il appelait la pulsion de répétition, pour lui, qu'il reliait à la pulsion de mort, il disait elle s'oppose au principe de plaisir et elle peut même parfois lui être supérieure. C'est-à-dire que, alors même qu'on sait que certaines choses pourraient nous faire du bien, eh bien, en fait, on choisit bizarrement la répétition, parfois même la répétition de nos erreurs, parfois même la répétition d'une vie qui ne nous convient pas. Et pour lui, c'est le symptôme du refoulement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre à aller chercher, mais nous avons de la difficulté à regarder en face ce vers quoi nous devons aller.
Philippe Gavillier, nous sommes terrifiés à l'idée de tout recommencer alors que nous vivons des choses qui ne nous conviennent plus.
Oui, mais comme vous disiez justement, la notion de zone de confort peut parfois se révéler inconfortable. Mais le confort est là. Et on se rend compte que la zone de confort peut parfois, à un moment, il y a une prise de conscience qui risque d'arriver, puis tout d'un coup on commence à se rendre compte que cette zone de confort devient une espèce de zone de routine. Cette zone de confort, en fait, met en avant ce que je suis en train de rater en la conservant. Moi, j'avais écrit à une époque que les zones de confort, on les aime ou on les quitte. Voilà, c'est cette idée. Mais enfin, dès l'instant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pourquoi c'est difficile de quitter une zone de confort, c'est qu'une zone de confort est très souvent partagée avec d'autres. Et que lorsque je veux quitter ma zone de confort, je suis en train de pousser les autres autour de moi à faire de même, ce qui peut faire dire d'ailleurs que face à des affirmations, tiens, je vais changer ça, je vais transformer ça, parfois des gens autour de nous qui pourtant nous aiment, tiennent à nous, etc., vont nous dire mais ça va pas, t'es fou, t'es trop jeune, t'es trop vieux, t'as trop de diplômes, t'as pas assez de diplômes, que vont dire nos vieux parents, que dira la tante Adèle, enfin, voilà. Et on se rend bien compte que parfois notre désir, nous, de tout transformer va perturber des gens à l'amour et à l'estime de qui on tient et que ça fait partie des résistances qu'il va falloir aborder à un moment. Donc.
Et nous accueillons Pam. Bonjour Pam.
Oui, bonjour.
D'où appelez-vous Pam?
J'appelle de la Drôme.
Et c'est bien, j'adore la Drôme. On est ravis de l'apprendre. Plus sérieusement, vous avez, Pam, quitté votre zone de confort. Hein.
Voilà, oui, je suis carrément sortie de ma zone de confort. En fait, je faisais des métiers qui ne me convenaient plus, je ne pouvais plus. Et un jour, je me suis dit, je suis artiste peintre, donc je me suis dit, je vais tenter le coup, je vais faire un petit travail à mi-temps, donc femme de ménage, parce que pour moi, il n'y a pas de sous-métier.
Évidemment.
Un petit travail alimentaire, et du coup, je peux peindre, je travaille un quart de temps, et le reste du temps, je peins.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à tout recommencer, Pam?
Parce que je ne pouvais plus vivre comme ça, en fait. C'était en moi, j'étais obligée de le faire, je ne pouvais pas. Je ne vivais plus, j'étouffais, donc je l'ai fait.
Ça veut dire quoi, ne plus pouvoir vivre comme ça?
J'ai été angoissée de ne pas pouvoir exprimer mon art, en fait. J'étais pas au bon endroit. Donc, pour moi, être au bon endroit, c'était peindre, et je l'ai fait. Et je suis très heureuse de l'avoir fait.
Philippe Gavillier?
Je trouve que c'est déjà ça pose et ça illustre de façon formidable l'une des deux grandes formes en fait de grand recommencement, le grand recommencement qui est lié à un appel intérieur. C'est-à-dire quelque part, je suis en train de passer à côté de quelque chose. Je ne suis pas la femme que je pourrais être. Et à partir de là, je vais faire des choix. Je vais renoncer peut-être à un certain nombre de conforts. Je vais me réorganiser différemment. Et donc, dans le grand recommencement, il y a ce grand recommencement qui est lié à un appel et qui est le pendant, en fait, du deuxième type de grand recommencement qui est lié, malheureusement, à un accident de vie où les événements, un problème de santé, la faillite de mon entreprise, etc., vont me pousser à recommencer à zéro, parce que je pense, en tout cas, ne plus rien avoir.
Anne-Sophie Moreau?
Oui, ce qui me frappe dans ce témoignage, c'est vraiment cette formule « je ne pouvais plus ». C'est-à-dire que, en réalité, lorsqu'on doit changer de vie, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment le choix. C'est-à-dire que vous avez quelque chose comme une intuition, mais qui est au-delà de l'intuition, qui est parfois même physique. Vous allez au travail, vous avez la boule au ventre, vous êtes dans une relation qui vous durcit, vous le sentez même dans votre corps. Donc en fait, on n'est pas dans le domaine, vous voyez, du choix, où il y aurait tout un tas d'options, comme si vous étiez au supermarché. je vais choisir telle ou telle sauce pour mes pâtes. Non, vous avez un besoin impérieux qui vous dit d'aller ailleurs. Et ce besoin, évidemment, il faut l'écouter. Et bien sûr, souvent, il y a aussi, parfois, il y a aussi des événements qui vous forcent à changer de vie. Et c'est aussi une des questions qu'on pose dans ce dossier, parce qu'on se demande pourquoi recommencer, comment recommencer et aussi comment recommencer lorsqu'on n'a pas choisi de changer de vie. Si vous êtes licencié, par exemple, si vous vous faites larguer, bon, bah, vous êtes forcé de reprendre à zéro alors même que ce n'était pas votre souhait. Comment faire face à cela? Comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on se retrouve à la case départ ou à la case prison, par exemple, comme Nicolas Sarkozy qui, de sa cellule de la santé, a dit « c'est là que j'ai recommencé ma vie ».
Il y a une grande écrivaine et autrice et poétesse du siècle dernier qui était Anaïs Nin, qui avait écrit cette phrase formidable. Anaïs Nin écrivait « 21 ans où le risque de rester à l'étroit dans un bourgeon était devenu plus douloureux pour moi que le risque d'éclore ». Et je pense que c'est ça, cette espèce de pulsion intérieure vers quelque chose m'attend ailleurs. Et si je passe à côté, je passe littéralement à côté de ma vie avec un grand V, quoi.
Pam, cette phrase d'Anaïs Nin résonne évidemment en vous.
Ah oui, vraiment, c'est tout à fait ça, en fait. En fait, si je le faisais pas, je me disais, je vais mourir, je peux plus. C'est une obligation.
Merci beaucoup, Pam. On peut voir votre travail quelque part? Est-ce qu'il y a un site internet où il y a...
Oui.
Dites, allez-y, profitez-en.
Merci, c'est gentil. Donc sur Instagram... Pam-toile avec un S
sur Instagram. Voilà. Merci Pam de nous avoir appelé. Et nous accueillons Nanette d'Aix-les-Bains. Bonjour Nanette.
Bonjour Ali.
Bonjour. Alors vous avez tout recommencé vraiment dans tous les pans de votre vie.
Dans tous les pans de ma vie, ce sont des bouleversements importants. La retraite depuis le 1er janvier 2026, ça c'était prévisible. Un divorce auquel je suis en train de faire face. Et du coup, un déménagement puisque divorce.
Comment vous vivez tous ces recommencements plus ou moins contraints?
Eh bien, je les vis de manière différente et ça dépend des jours. Il y a des jours où c'est facile, où je me sens portée par des changements possibles et des changements qui me seront favorables, agréables, ou en tout cas que j'entrevois comme ça et que je dessine comme ça mentalement. D'autres jours où c'est un peu plus difficile parce que il y a encore de la peine et du chagrin. Donc j'oscille un peu entre ces deux états. Mais parfois c'est vertigineux, mais je me dis aussi quand même souvent que de belles choses sont possibles et que ça m'a fait aussi me rendre compte que j'avais un entourage qualitatif autour de moi. Certes, pas nombreux, j'ai pas énormément de gens, mais ils sont là, ils sont présents, et ça c'est extrêmement précieux.
Philippe Gabillier.
Ce que en fait Nanette nous dit, c'est que derrière tout changement, quelles que soient par ailleurs les obligations sociales, les contraintes, il y a une dimension émotionnelle. C'est-à-dire que la transformation, elle ne peut pas passer outre une dimension émotionnelle. Et parfois, cette dimension émotionnelle, parce que la situation est difficile, ça peut être la colère, ça peut être la tristesse, ça peut être la peur. Bon. Et c'est vrai qu'on se rend bien compte que les énergies vitales vont commencer à jouer leur rôle quand ce changement, cette transformation, ce redémarrage à zéro va pouvoir recommencer à se nourrir de joie, d'enthousiasme, de sentiments d'euphorie, de micro-bonheur, et c'est ce qui donnera l'énergie justement pour pouvoir digérer les difficultés qui sont inhérentes de toute façon à tout changement.
Nanette nous parle de vertige. Le vertige, c'est à la fois évidemment angoissant, mais également excitant.
Oui, c'est de toute façon, un changement de vie est ambivalent. Tu sais, c'est dans le spleen de Paris, c'était dans ses poèmes en prose, où Baudelaire avait eu cette phrase incroyable, il disait « Il y a dans tout changement quelque chose d'infâme et d'agréable à la fois, qui tient tout à la fois de l'infidélité et du déménagement. » Et ben voilà.
Nanette vient de déménager, donc ça tombe bien. Anne-Sophie Moreau.
Oui, parmi les questions qui se posent lorsqu'on se demande comment recommencer, c'est comment trouver l'énergie de recommencer, y compris lorsqu'on y est forcé. Vous savez, lorsqu'on se dit, par exemple, lorsqu'on se marie pour la deuxième fois, on dit rarement justement « je me marie pour la deuxième fois », on dit « je me marie pour la seconde fois ». Sous-entendu, on a comme espoir que cette seconde fois soit la dernière, justement, qu'il n'y ait pas de nouvelles chances. C'est-à-dire que nous espérons avoir trouvé le bon endroit, l'endroit où nous serons enfin à notre place. Et donc, lorsqu'on est délogé de cet endroit, évidemment, ça crée une rupture, ça crée un vertige, ça crée une fêlure profonde qu'il faut apprendre à soigner.
Nanette, quelle est votre énergie face à tous ces changements de vie ?
Alors, mon énergie, elle est plutôt bonne, elle est plutôt stable, je trouve, en ce moment, parce que ça passe aussi par une réflexion sur moi, sur mes priorités, sur les choix qui sont importants pour moi, sur les forces aussi que j'ai en moi, sur lesquelles je peux m'appuyer. Et du coup, ça fait comme un socle, comme un ciment, comme une base sur laquelle, quand j'ai quelques doutes ou quand je fléchis un peu, je reviens et je m'appuie dessus. Donc j'écris, je passe un peu par de la créativité, chose que j'ignorais totalement chez moi. Et voilà, et je me nourris de tout un tas de petites choses et ça, c'est extrêmement soutenant.
Eh bien, bon vent pour cette nouvelle vie, Nanette, et n'hésitez pas à nous appeler comme Nanette au 01 45 24 7000. À suivre, on va écouter le témoignage de Maxime et dans un instant, des conseils pour tout recommencer dans son existence, en amour, dans son travail. Racontez-nous comment vous avez changé de vie au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France. On se retrouve juste après avoir écouté Camélia Jordana, Colonel Chagrin, une chanson sortie en 2015, 10h23 sur France Inter.
Colonel Chagrin, colonel de plomb, pleure des canadaires et des cotillons. Pour une fille partie, colonel de pluie, s'ennuie. Pleure donc pas comme ça, colonel bidon. Si t'es un garçon, si t'es un garçon, les filles c'est des connes, colonel marron, et toi t'es qu'un con. Colonel vaurien, caporal miné, joue les astronautes et dans les nuées, tu cherches rien d'autre, tu cherches rien d'autre que ta bien. Comme ça, colonel mouillé, à regarder le ciel, à penser qu'à elle, c'est fini les balles, les Negresco, colonel.
Interpréter Colonel Chagrin.
Grand bien vous fasse.
Plus t'es perdu dans ta vie, plus tu penses à devenir coach de vie.
Sur France Inter.
Donc eux, ils sont là, ils se disent, bon ben, je suis rempli de loose, je vais prendre toute cette loose, je vais en faire une petite boule, et je vais l'injecter à quelqu'un qui va me payer et qui va trouver un sens à ma vie.
Ali Rebéi.
Et ce matin, dans Qu'on vous fasse avec le mensuel Philosophie Magazine, comment tout recommencer dans sa vie, en amour, dans son travail, avec deux coachs de vie, avec la philosophe Anne-Sophie Moreau et avec le professeur en psychologie et management Philippe Gabillier. Anne-Sophie Moreau, une petite remarque sur le titre.
Oui, alors effectivement, Ali, j'ai été saisie par le fait que vous aviez lu notre titre de magazine comme si c'était « Comment tout recommencer ?»
Et non, c'est pas...
Alors que le titre de notre numéro, c'est « Comment recommencer oui, tout court oui. ?» Et alors, qu'est-ce que ça dit de vous c'est une question. Alors, je pense que vous avez très envie d'aller dans le sud-ouest ouvrir un café où on mangera des scones.
Mais, salon de thé, madame. Pardon.
Un salon de thé, pardon. Mais je pense que c'est intéressant parce que lorsqu'on peut lire ce titre de diverses manières, et d'ailleurs on le traite de diverses manières aussi dans ce numéro, parce qu'on se pose la question de savoir s'il faut chercher à tout recommencer dans sa vie, ou bien, mais aussi, comment est-ce qu'on trouve au quotidien l'énergie de recommencer chaque jour. Vous voyez, chaque jour, chaque année, en janvier, voilà, la saison recommence, on vous demande comment vous allez vivre cette vie, mais il y a aussi énormément de répétitions dans la vie, la répétition des saisons, la répétition du travail, chaque matin, vous devez faire votre émission, et donc comment est-ce qu'on trouve aussi l'énergie, la joie et le plaisir de la répétition.
Comment l'avez-vous lu ce titre de Philosophie Magazine, Philippe Gabillier?
Et ben, en fait, comme je savais qu'on devait faire cette émission ce matin, j'avais dû dire oui 3-4 jours avant. Moi, quand j'ai vu, j'étais à la gare, et je vois ça, j'ai dit, oh bon sang, c'est sur ce dont on va parler dans l'émission avec Ali dans la semaine prochaine. Et en fait, moi aussi, j'avoue, hein, je l'ai lu comme ça. Mais alors, comme en plus, je vais sortir un livre qui s'appelle La fabrique du destin et que j'avais écrit il y a quelques années, L'art de changer de vie, c'est vrai que j'étais sur cette espèce d'idée. Moi aussi, j'ai inventé un tout qui n'existait pas, en fait. Voilà.
Mais ça fait partie de la question, bien sûr. Mais disons que l'une des questions que nous avons voulu poser dans ce dossier, c'est aussi pourquoi avons-nous sans cesse envie, besoin de changer de vie. Et il me semble que c'est aussi dû à une sorte d'injonction qui se répand dans notre société, qui est l'obsession de la nouveauté. Moi, il y a une question qui m'agace ou qui me met mal à l'aise à chaque fois que je vois des gens que j'ai pas vus depuis longtemps, c'est lorsqu'ils me demandent « Alors, quoi de neuf ?» Sous-entendu, qu'est-ce que tu as essayé de nouveau? Est-ce que tu as essayé le saut en parachute? Est-ce que tu as enfin changé de job? Est-ce que tu as enfin changé de partenaire? Que sais-je? Eh bien, c'est une question finalement qui me semble révélatrice aussi de notre obsession et de l'idée que nous avons, qui est très propre à la modernité, que nous devons finalement nous atteler en permanence à révolutionner totalement notre existence.
Obsession du changement qui nous pousse à recommencer, à tout recommencer, et puis également l'ennui.
Oui.
L'ennui.
Oui, alors il y a un philosophe qui s'appelle Tristan Garcia qui décrit très bien ce phénomène. Il appelle ça le primavérisme, c'est-à-dire le fait que, d'après lui, nous accordons plus d'importance à la nouveauté. Nous voulons en permanence vivre des premières fois.
Et être électrisé par ces premières fois.
Oui, voilà, il raconte ça dans La vie intense, qui est un essai dans lequel il explique que nos vies modernes sont pensées sur le modèle de l'électricité. Vous voyez, il y avait des expériences de galvanie. Qui montrait que le courant électrique passait à travers les gens, qu'on avait les cheveux qui se dressaient sur la tête. Voilà, les bourgeois et les aristocrates adoraient jouer à ce jeu il y a des siècles. Et aujourd'hui, finalement, c'est comme si on avait en permanence, ou en tout cas, c'est comme si on était persuadé qu'il fallait absolument être galvanisé à chaque instant, et que pour cela, il nous fallait vivre de nouvelles expériences, tester de la nouveauté. Et donc la question, c'est est-ce que c'est un besoin réel? Ou bien, est-ce que ce n'est pas aussi une forme d'aliénation?
Et puis, Philippe Gabillier, on peut ne pas avoir envie de tout recommencer. On peut vouloir rester dans sa zone de confort.
Non seulement on peut revendiquer, sachant que d'ailleurs, la zone de confort avec un Z majuscule, je pense que ça n'existe pas. Nous avons tous des zones de confort. Il y en a certaines, je dirais, qui nous plaisent tout à fait. On est très bien avec les gens avec qui on vit, à l'endroit où on vit, etc. Et puis, à un moment donné, se sont mises en place peut-être certaines zones où, justement, au mieux la routine, au pire l'ennui, encore pire d'ailleurs le sentiment de gâcher quelque chose du temps de vie, va pouvoir s'inviter.
Vous avez une définition de la zone de confort ?
Oui, moi je dis, je pense que c'est la zone de confort, c'est un confinement intérieur doux et accepté. Voilà. Et donc on a le droit parfois de ne plus en vouloir. En revanche, si je peux juste faire une remarque, par rapport aux premières fois, tout dépend aussi de l'âge. Moi j'ai un souvenir commun d'ailleurs avec Ali, dans une émission, je dirais, qu'on avait faite, où on m'avait demandé de parler des premières fois. Et moi j'avais dit que, j'en suis convaincu, la recherche de nouvelles premières fois est un outil anti-vieillissement à partir d'un certain âge, c'est-à-dire commencer à se dire, tiens, est-ce qu'il y a quand même des choses que je n'ai jamais faites et que j'aimerais faire pour la première fois pour me retrouver dans cette énergie de la jeunesse où, en fait, ma vie, dans les premières années de ma vie, n'a été qu'une suite ininterrompue de premières fois inconscientes. Ben, puisque maintenant, elles ne peuvent plus être inconscientes, je peux essayer consciemment de retrouver cette espèce d'énergie, d'adrénaline des premières fois. C'était une hypothèse de travail.
Et nous accueillons Maxime. Bonjour Maxime.
Bonjour Ali.
Bienvenue. D'où appelez-vous Maxime ?
De Lille.
Alors, qu'avez-vous changé dans votre vie, Maxime ?
Eh bien, moi, c'est un changement de vie professionnelle. Donc, moi, j'ai un profil plutôt autodidacte, entrepreneur. Et j'ai opéré un changement assez radical en 2024.
Vous travaillez dans quel secteur jusque-là ?
Alors, voilà, je travaillais dans le digital. Donc, concrètement, hein, je faisais des outils avec des équipes techniques. Et j'ai basculé du digital au végétal.
Belle transition.
N'est-ce pas ? Oui, il fallait absolument que ça rime, donc c'est ce que j'ai fait. Non, mais plus sérieusement, j'avais le sentiment, donc là, j'avais une entreprise que je co-dirigeais, et voilà, le sentiment de faire des choses peu tangibles, peu palpables. Et mon frère et ma belle-sœur ont une entreprise à Lyon, je sais pas si je peux la citer.
Allez-y.
C'est Yanomami, donc qui végétalise des espaces d'entreprise. Et quand j'ai fait un petit onboarding un peu par hasard chez eux...
Onboarding, c'est quoi l'onboarding ?
Pardon. ils m'ont présenté un peu la façon dont ils travaillaient avec leurs équipes. Et puis, mais sans forcément projection. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur sur la façon dont ils abordaient le sujet. Et du coup, j'ai vendu ma part de l'entreprise dans le digital pour basculer dans le végétal. Et moi, mon expérience là-dessus, c'est, donc je vous écoutais attentivement, c'est effectivement cette notion de zone de confort. Moi, c'était plus un sujet de routine. Et après, le versant positif, c'est tout ce que vous dites, hein, la nouveauté, c'est excitant, il y a de l'enthousiasme. Mais il y a quand même un élément, en tout cas dans mon cas, qui est à souligner, c'est que c'est un réapprentissage aussi, qui demande beaucoup de temps. Enfin, j'ai dû bouquiner comment bouturer une plante, parce qu'on fait des ateliers au sein des entreprises. Et donc j'ai dû me réapproprier tout un univers que je ne connais pas. Donc c'est autant excitant que exigeant.
Merci beaucoup Maxime pour votre témoignage. Philippe Gabillier, un mot peut-être ?
Ce que je trouve très, très, vraiment en plus dans ce cas spécifique, ce qui est intéressant, c'est que bien évidemment Maxime nous dit que en changeant d'univers, il changeait aussi le sens profond de ce qu'il était en train de faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que passant du digital au végétal, en fait, il nous met en avant quelque chose que les gens oublient souvent, c'est que le sens, c'est toujours deux choses. C'est effectivement le sens en tant que signification. Donc ça, mon travail change de signification, mais le prix à payer aussi, un beau prix à payer, pour changer de signification, c'est de changer aussi d'univers de sensations physiques. Parce que les sensations physiques qu'on a quand on tape du digital sur son clavier toute la journée ne sont pas les mêmes que les sensations physiques. Et des gens, parfois la quête du sens, c'est parfois la quête de nouvelles sensations physiques par rapport à son travail, à son réel, et ainsi de suite. Et je pense que ce que Maxime nous raconte en est une très jolie illustration.
C'est sûr que c'est pas la même chose de taper sur son clavier. Ouais. Absolument. Et bouturer un plan. Merci beaucoup Maxime et nous accueillons Enora. Bonjour Enora.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Bonjour, alors vous êtes-vous tenté par l'idée de recommencer dans l'un des domaines de votre vie ?
Eh bien alors moi ça a été fait justement, puisque moi j'aurais souhaité un petit peu insister sur la question de temporalité. C'est-à-dire que souvent, on entend dans les émissions ou dans les articles qu'on peut lire sur le fait que des gens vont tout plaquer pour changer de vie. Mais en fait, ça se passe pas de cette façon-là. C'est-à-dire que moi, vous prenez une photo de ma vie à 10 ans, vous prenez une photo de ma vie maintenant. C'est pas du tout la même chose. Sauf que j'ai mis quasiment 10 ans à le faire, en fait.
Et à quoi ressemble la photo d'il y a 10 ans et la photo aujourd'hui?
Alors, il y a 10 ans, j'avais pas d'enfant, j'étais tailleur de pierre, j'étais conductrice de travaux, j'habitais une maison, tout à fait quelque chose de classique, mon conjoint également. Et puis maintenant, je suis maraîchère, bio, en pleine campagne, mon conjoint est éleveur caprin, et on habite dans une yourte contemporaine de 80 mètres carrés, on a deux chiens et toujours deux enfants.
C'est un sacré changement de vie.
Et on est passé de 2500 euros de salaire chacun au RSA. Voilà. Donc,
quelle a été l'impulsion, Enora, de ce changement de vie? Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à tout plaquer pour devenir maraîchère?
Eh bien, justement, pas tout plaquer, justement. Oui. C'est vraiment avoir retrouver un. Ben, comme énormément, c'est très très classique en maraîchage, enfin, les nouveaux agriculteurs, c'est vraiment donner un sens à sa vie et à ses activités, c'est-à-dire se lever chaque matin pour quelque chose qui a du sens et qui compte. Mais ça s'est passé comme ça, parce que le milieu agricole, je le connaissais pas. Moi, je suis native de Nice, donc maintenant, je suis au fin fond de la Bretagne, donc je suis une urbaine. Donc, c'est pas quelque chose que je connaissais, c'est quelque chose que j'ai appris, mais ça m'a pris beaucoup de temps. Voilà, beaucoup de temps, et un changement de vie aussi de cette façon-là peut pas se faire seul. Mmh. Voilà, parce que souvent, moi, je vois des gens autour de moi qui aimeraient justement faire évoluer leur vie, parce que moi je parle pas de changement de vie, je parle d'évolution plutôt. Faire évoluer leur vie vers quelque chose qui leur correspond mieux, mais qui sont pas entourés par une famille par exemple aidante, qui vont pas voilà. Et en fait on fait jamais ça seul, on est aidé, d'ailleurs merci à la famille de m'avoir aidé, de m'avoir soutenu, merci aux deux familles, parce que sans la famille on n'en serait pas là. Voilà.
Philippe Gabillier, vous preniez des notes?
Oui, parce que c'est cette idée qui est essentielle, qui est de dire dès l'instant où je veux soit repartir à zéro, soit changer quelque chose, soit évoluer, mais de façon un peu radicale. D'abord, premièrement, il y a deux choses dans le témoignage d'Enora. Première chose, c'est que une des choses qui structure un changement, c'est le non-changement. C'est-à-dire que je garde quand même mes enfants, probablement ma joie de vivre, mon conjoint, etc. Et puis, il y a cette idée selon laquelle une aventure pérenne peut difficilement ne pas être une aventure collective. Donc il va falloir trouver des gens qui seront mes alliés, qui seront mes soutiens, etc. Mais ça se vivra. Pour pouvoir durer, il faudra probablement faire ça à plusieurs.
Merci beaucoup, Enora, de nous avoir appelé. Alors, Philippe Gabillier, nous jouissons de trois libertés de choix inaliénables face aux événements de notre vie, qui peuvent être donc des moteurs pour recommencer ou pour tout recommencer. Expliquez-nous ces trois libertés.
L'idée, en fait, c'est quand on parle des trois libertés, ce sont trois logiques, en fait, de liberté, mais qui peuvent s'exprimer de façon très différente selon l'âge, selon la situation sociale, etc.
Liberté de nous mettre en route.
Tout d'abord, la première liberté que nous avons, c'est la liberté de nous mettre en marche, de nous mettre en mouvement. Ça peut être un mouvement physiquement, ça peut nous mettre en mouvement pour aller explorer d'autres territoires du savoir, d'autres territoires géographiques ou physiques, mais il est clair et net que ce qu'on appelle l'inhibition de l'action en psychologie, ça c'est quelque chose qui est très 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 délétère. Si à un moment donné, d'ailleurs la personne qui vous dira je n'arrive plus à avancer, je suis bloqué là où je suis, le fait de se remettre en mouvement, quelle que soit la nature du mouvement, est un premier point important. La deuxième chose, parce qu'on est des êtres sociaux, c'est que nous avons tous la liberté à un moment ou à un autre de tenter, je dis bien de tenter, de rentrer en relation avec l'autre. Ça répondra ou ça répondra pas, ça c'est un autre problème, mais c'est moi qui décide à un moment donné d'aller adresser la parole à quelqu'un que je connais pas. Quelqu'un vient me voir, me parle, je lui réponds ou je lui réponds pas, je décide de répondre au téléphone ou de pas décrocher mon téléphone, c'est moi qui, jusqu'à un certain point, décide de rentrer ou non en interaction. Et puis à partir de là, la liberté qui va en fait structurer, c'est une phrase, c'est Bacon, hein, Francis Bacon Le Pen, qui disait de toute façon, la vie c'est quoi? Un jour tu nais, un jour tu meurs, entre les deux tu fais des trucs, c'est mieux. Bon, ben il va bien falloir aussi structurer ma vie autour d'un certain nombre de décisions d'action. J'ai pas le choix. Même si je décide de rien faire, je viens de décider un truc. Voilà.
Et puis
j'ai la liberté, à un moment donné,
de prendre des risques.
De prendre des risques à mon image. C'est-à-dire que chacun ses audaces, hein, chacun ses risques. Pour certains, je dirais simplement déménager, c'est prendre un risque. Bon, c'est peu importe, mais c'est ça qui va structurer, et ça, on est libre de faire toutes ces choses-là. Et c'est la façon dont cette liberté se sera matérialisée qui fera à la fin l'histoire des bifurcations qu'on a rencontrées dans nos vies et l'histoire de notre vie tout court. Quoi.
Anne-Sophie Moreau.
Oui, et je pense qu'il faut faire la distinction entre ce qu'on appelle le choix et la véritable décision. C'est-à-dire qu'on peut considérer que dans la vie, on a le choix entre diverses options, et puis on peut faire voilà, un tableau où on compare les avantages et les inconvénients de tel ou tel mode de vie. Mais on se rend compte que lorsqu'il s'agit de prendre de véritables décisions qui engagent toute votre existence, eh bien en fait, on ne peut pas vraiment comparer de manière rationnelle ces différentes options. Il y a une philosophe qui s'appelle Laurie N. Paul qui parle de ce qu'elle appelle les expériences transformatrices. Et pour elle, l'expérience transformatrice, ce sont des décisions que vous ne pouvez pas prendre de manière éclairée. C'est-à-dire fondamentalement, structurellement, parce que vous ne pouvez pas savoir quelle personne vous allez devenir une fois que vous aurez pris cette décision. Donc, typiquement, si vous faites un choix d'orientation, si vous décidez de faire ces études, eh bien en fait, ça va vous transformer. Mmh. Si vous décidez d'avoir un enfant, ça va vous transformer. Donc en fait, vous ne pouvez pas décider de manière parfaitement consciente et informée de ces choses-là, puisque voilà, elles viendront de toute façon bouleverser notre existence. Et c'est ce qui fait évidemment la beauté des grandes décisions, c'est qu'à un moment donné, c'est un saut. Voilà, vous sautez dans le vide et vous décidez non seulement de vivre autre chose, mais de changer.
En fait, on retrouve cette idée dans les sciences de l'action, par exemple. On considère qu'il existe... on pourrait discuter de la distinction entre le choix et la décision, mais en simplifiant... moi, par exemple, je suis d'une génération où on considérait qu'une bonne décision dans le monde de l'entreprise, vous voyez, par exemple, une bonne décision était une décision qui devait être pesée. Le pour et le contre, les scénarios, etc. Si ce n'est que pour que cette affaire-là fonctionne, c'était pas idiot, d'ailleurs, hein, mais pour que ce type de décision fonctionne, il faut avoir toute l'info, il faut avoir du temps, il faut être en environnement stabilisé. Dans la vraie vie, dès l'instant où on est dans l'urgence, on n'a pas toute l'info ou on en a trop, ben, la bonne décision, c'est plus celle-là. La bonne décision, comme vous disiez, c'est tout bêtement la décision qu'à un moment donné, on prend, et puis une fois qu'on l'a prise, ben, on fera tout pour essayer de la rendre bonne. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle les décisions les plus importantes de notre vie, leur qualité ne se construit pas avant de les prendre, mais toujours après qu'on les ait prises.
Vous avez tout recommencé dans votre vie, n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000, comme Élise de Marseille qui nous a appelé au standard. On se retrouve dans un instant, juste après avoir écouté Tams qui interprète Big Daddy, 10h43 sur Inter. Thames interpréter Big Daddy.
Grand bien vous fasse.
Je crois même qu'il y a une belle journée qui se prépare.
Ali Rebéi.
Ah bon ? Eh bien, grand bien lui fasse.
Sur France Inter.
Et ce matin, dans Grand bien vous fasse, avec le mensuel Philosophie Magazine, comment recommencer, comment tout recommencer dans sa vie, en amour, dans son travail, en compagnie de la philosophe Anne-Sophie Moreau et avec le professeur en psychologie Philippe Gabillier. Dans Philomag, Anne-Sophie Moreau, vous proposez une méthode pour recommencer. Expliquez-nous cette méthode autour de trois piliers, refonder, répéter, reprendre. Expliquez-nous.
Oui. Oui, alors ce n'est pas une méthode, mais disons qu'on essaye de proposer plusieurs pistes, plusieurs manières de recommencer ou de changer, qui sont pas forcément les mêmes. Et voilà, on peut choisir, on n'est pas obligé pas obligé d'appliquer les trois parce qu'elles sont pas forcément, elles sont parfois incompatibles, vous le verrez. Donc la première, alors pour résumer, j'ai appelé ça refonder, répéter, reprendre. Hein, ce sont trois voies différentes que j'ai tenté d'identifier. La première, refonder. C'est la méthode de Descartes. C'est faire table rase comme Descartes. Vous savez, Descartes, il essayait de refonder le savoir, les connaissances humaines. Et donc pour cela, il décidait de prendre toutes nos croyances et de faire comme si c'était des pommes dans un panier. Et il dit en fait, il faut tout virer pour ensuite remettre une à une les pommes qui ne sont pas pourries. Et si on en laisse encore une seule pourrie, bon bah tout va être contaminé. Et donc vous pouvez essayer de l'appliquer à votre vie. Voilà, essayer de faire le tri. Hein, voilà, vous triez tout ce qui est pourri dans votre existence, voilà, votre ex toxique, votre boss qui l'est aussi, etc. Voilà, et vous essayez de repartir de zéro. Le problème avec cette méthode, c'est que ça peut être assez vertigineux et vous pouvez aussi vous retrouver fragilisé parce que lorsqu'il s'agit de tout recommencer, lorsqu'on se retrouve dans un champ de ruines et qu'on a au passage abîmé quelques relations, on le disait tout à l'heure, c'est important aussi de pouvoir s'appuyer sur ses proches pour changer de vie. Donc moi, j'aurais tendance à dire voilà, déboulonner les piliers un par un, peut-être éviter la table rase. L'autre piste, c'est répéter, mais non pas au sens de répéter le même, d'être dans cette pulsion de mort de répétition qui vous fait répéter les mêmes erreurs, mais essayer de répéter au sens où l'entendait Deleuze dans Différence et répétition, qui est un texte assez ardu, voilà, difficile à aborder, mais qui dit quelque chose d'intéressant, à savoir qu'on peut envisager la répétition soit comme une répétition du même, voilà, les habitudes par exemple, mais on peut aussi envisager la répétition au sens d'une répétition théâtrale ou d'un rituel, en ce sens, ça consiste plutôt à célébrer l'irremplaçable, à célébrer l'unique. Donc vous voyez, lorsque vous lisez une histoire à votre enfant, voilà, vous lisez pour la millième fois cette même berceuse, cette même comptine, vous en avez un peu marre, mais en même temps, vous êtes dans un moment unique de l'existence, dans un moment extrêmement intense, et il en va de même si vous faites la fête, par exemple, là, ça ne produit rien, mais vous êtes dans une célébration de l'unique. Et enfin, la troisième voie, c'est ce que j'appelle la reprise. En faisant appel à un concept de Kierkegaard, un texte qu'on avait longtemps traduit comme la répétition, mais qu'on traduit désormais par la reprise. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas exactement la même chose pour Kierkegaard. Kierkegaard, il dit qu'on peut avoir plusieurs manières d'aborder l'existence. On peut être obsédé par la nouveauté, ce qu'il appelle le stade esthétique de l'existence. On caresse des possibles, c'est le stade du séducteur. Pour lui, voilà, on cherche à multiplier les partenaires parce qu'on est en train de caresser les possibles, comme il le dit. On veut tout le temps finalement se laisser toutes ces options ouvertes. Il y a une attitude inverse qui consiste à être au contraire nostalgique du passé, à vouloir répéter le passé. Et il y a ce que Kierkegaard appelle la reprise. Et il prend pour exemple, vous voyez, un couple qui se reforme après des années de séparation. Il faut savoir que Kierkegaard, il était très triste d'avoir rompu ses fiançailles avec Régine, l'amour de sa vie.
Je rappelle, c'est un philosophe danois.
Et il rêvait de reprendre justement cet amour perdu. Et pour Kierkegaard, la reprise, c'est l'attitude de celui qui n'est ni nostalgique, ni obsédé par la nouveauté, mais qui a fait le tour de sa vie et qui choisit de s'en réjouir. Voilà. Et c'est une idée qu'on retrouve aussi chez Nietzsche dans son concept de l'éternel retour. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être capable d'imaginer que sa vie pourrait se répéter de manière infinie et trouver ce qu'on appelle l'amour, l'amorphatie, c'est-à-dire la joie dans la répétition, la joie dans l'existence telle qu'elle est, dans son existence singulière. Mmh. Et lorsqu'on essaye d'aborder la vie de cette manière, il s'agit non pas de changer de vie au sens de tout révolutionner, tout bazarder, mais bien au contraire de vivre différemment en étant attentif au présent, à ce qu'on vit, à l'intensité, à la singularité de notre propre existence.
Philippe Gabillier.
Oui, je pense que cette idée selon laquelle c'est une posture philosophique qui n'est pas obligatoirement facile à vivre au quotidien, mais on a beaucoup d'exemples dans la société de gens qui ils ont justement vécu des épreuves graves, et on ne peut pas se réjouir de l'épreuve qu'on a vécue, mais dès l'instant où on en a fait quelque chose, on accepte, je dirais, son destin, la vie qu'on a eue. Moi, j'ai un exemple de quelqu'un qu'on connaît bien, qui est Philippe Croizon, qui te dit toujours que sa vie, depuis qu'il a eu son accident, qu'il a perdu les bras et les jambes, dirait sa vie est devenue très difficile. Mais il dit toujours, mais grâce à cet accident, j'ai vécu des choses intenses et je remercie toujours la vie d'avoir m'avoir permis de transformer cette épreuve en quelque chose. En fait, c'est ça, aimer le réel, c'est ça, c'est de toute façon l'accepter et décider d'en faire quelque chose, quoi qu'il advienne.
Et nous accueillons Élise de Marseille. Bonjour Élise, bienvenue. Bonjour Élise. Est-ce que vous êtes avec nous, Élise ? Élise.
Oui, bonjour.
Vous êtes loin, vous êtes à Marseille, enfin loin de l'émetteur de la maison de la radio, mais on vous a.
Je suis tout près du bonheur.
Racontez-nous.
Bien, avant, j'ai vécu partout dans le monde, y compris à Paris, dont je n'étais pas fan, et j'ai pu m'acheter, comme je suis écrivain, je gagne pas trop d'argent, et je suis libre, et donc j'ai acheté sur un coup de foudre une merveilleuse maison en Auvergne, dans un village, et j'adorais ma maison, mais je n'avais aucune idée de ce que c'était que la vie de village, et surtout quand on est anticonformiste comme moi, quand on est célibataire et heureuse de l'être comme moi, alors là, comment dire, je passais vite pour la sorcière, j'ai relu le bouc émissaire de René Girard, et j'ai compris mon sort. Exactement, c'était écrit pour moi, merci René. Et donc je suis allée à Marseille sur un coup de tête et j'ai découvert le contraire de tout ce qu'on disait de Marseille. Dans mon village, on me disait « Oh Élise, n'allez pas à Marseille, vous allez vous prendre une balle perdue ». En fait, c'est dans mon village que je risquais de me prendre une balle perdue. Et depuis que je suis arrivée à Marseille, c'est un concours de bienveillance et de gentillesse. Oui. À croire qu'on a mis de la drogue dans l'eau, de la drogue de la bienveillance et de la bonté. Tout le monde vient me parler, tout le monde m'accueille à bras ouverts. Les gens de tous les pays, je vais souvent dans ce que j'appelle la petite Algérie à Noailles. Alors là, les gens, c'est vraiment un concours de gentillesse et de bienveillance. Au marché, dans les cafés, partout. Donc, je suis la plus heureuse de ma vie.
Ça s'entend.
Ah oui, vraiment. Et les gens viennent vers moi parce que je rayonne le bonheur en beau, en fait, ou belle.
Merci beaucoup, Élise, pour ce beau témoignage, voilà. Philippe Gabillier.
Oui, ben ça montre, je trouve que c'est formidable de là on a un magnifique exemple de quelqu'un qui de toute façon porte un regard. Un regard sur le monde qui est porteur comme ça de joie, mais elle a trouvé un lieu où elle pouvait partager ce regard avec d'autres. Et encore une fois, on voit très bien que cette quête du bonheur ou des petits moments de bonheur, c'est toujours un triptyque entre un lieu, là c'est Marseille, d'autres gens que moi, ben, tous les gens qui l'entourent, et une intériorité, c'est-à-dire une disponibilité au bonheur.
Merci beaucoup Élise de nous avoir appelé. Alors Philippe Gabillier, tout recommencer, c'est aussi partir à l'aventure, se donner le droit à l'aventure, et comme vous l'écrivez dans votre nouvel essai La Fabrique du Destin, vivre en mode aventure, c'est avant tout demeurer ouvert à l'inattendu et à l'écoute souvent féconde du champ des possibles. Et comment se mettre en mode aventure justement dans notre vie quotidienne ?
On est de toute façon toujours sur cette idée de disponibilité. La question, c'est où la trouver. Parce qu'on a la disponibilité, elle est mise à mal par plein de choses. Quoi. Je veux dire, le smartphone, Netflix, bon. Et donc, c'est vrai qu'à un moment donné, pour que l'inattendu arrive, il faut quand même au moins lui laisser un peu de place. Quoi. Et on n'est pas obligé de le faire, d'ailleurs, ce n'est pas une nécessité. En revanche, quelqu'un qui voudrait avoir une vie plus romanesque, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'une vie romanesque ? C'est une vie qui va normalement au-delà de la conformité et qui, où on va tenter, mais de façon volontariste, presque militante, de lutter contre l'ennui. Et encore une fois, ce n'est qu'un choix, ce n'est pas du tout une obligation. Mais on continue aujourd'hui à être entouré de possibilités. Je dirais, je prends un exemple, on voyage, très bien, mais ce n'est quand même pas la même chose que de se préparer un super voyage étape par étape, ou de dire, je prends un billet aller, je prends un billet retour, puis une fois qu'on arrive sur place, je ne prends même pas la première nuit, on va voir ce qui va se passer.
Donc, c'est mettre, aussi... Et là, c'est mettre du suspense dans son existence.
Mettre du suspense.
Et là, on est en mode aventure.
Dans son existence, ouais. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi d'aller, de commencer parfois à s'intéresser à ce à quoi on ne s'intéressait pas avant, d'aller sur des choses qui ne sont pas naturellement notre tasse de thé, et à un moment donné, malgré la pression sociale, prendre le risque d'arrêter de prévoir.
Et se mettre en mode aventure, c'est également laisser la porte ouverte pour la curiosité, le mystère, la tentation, l'excès, la passion.
Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de mal en soi dans toutes ces dimensions-là. Je pense que le pire, me semble-t-il, pour certaines personnes, c'est de se rendre compte, généralement trop tard, lorsque la fin approche, qu'ils ont mené effectivement une vie très très calme, etc. Mais malheureusement, ils ont trop souvent fait le choix de la conformité contre le choix de la rupture, et puis on peut parfois le regretter.
Pour terminer, beaucoup de questions sur la peur d'échouer. Vous écrivez, Philippe Gabillier, qu'il y a un moment où l'introspection doit cesser pour expérimenter avec deux principes, le droit à l'erreur et le devoir d'essayer.
Absolument. Et de toute façon, la caractéristique de toutes les grandes réussites, sans aucune exception, dans le monde de l'art, dans la vie amoureuse, dans... toutes les grandes réussites se sont nourries d'une suite ininterrompue, parfois. Alors, on appellera ça d'échecs, de revers, de difficultés, d'épreuves, mais qui ont nourri. Je dis souvent, toujours, de toute façon, quand on échoue, on tombe. De toute façon, il faut essayer de tomber plus haut.
Et on n'est pas obligé de tenir ses promesses de recommencement. On peut toujours revenir sur ses engagements.
Oui, hein. on a le droit, parfois, de dire, bon, effectivement, ce jour-là, j'ai pris tel type d'engagement. Eh bien, aujourd'hui, 5 ans, 10 ans, 15 ans, j'ai peut-être eu tort. On va peut-être repartir sur d'autres bases. La notion, on dit toujours, je dis ça alors ça va choquer beaucoup de gens, mais le concept d'amour éternel a été inventé à une époque où l'espérance de vie était de 30 ans. Et c'est ça pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On a parfois le droit de dire, on va revenir sur ce qui avait été promis.
Et pour recommencer, il est important d'être à l'affût des instants opportuns, ces instants porteurs d'opportunités, justement, le fameux Kairos.
Le fameux Kairos, voilà, l'instant favorable.
L'instant T, le bon moment.
L'instant T, le bon moment.
Mot de conclusion, bref, ma chère Anne-Sophie.
Oui, je dirais que une fois qu'on a changé de vie ou qu'on a recommencé, on se demande toujours si on a fait le bon choix. Et je pense qu'un critère définitif, c'est est-ce que cela vous apporte de la joie. Henri Bergson, il disait que la joie, elle était souvent liée à la création d'entreprise, on lance quelque chose au nouveau, on a un enfant, que sais-je. Et pour Bergson, c'est le signe, dit-il, que la vie a gagné du terrain, qu'elle a remporté une victoire.
Merci beaucoup Philippe Gabillier. Apparaître le 5 mars, La Fabrique du Destin, n'hésitez pas à le commander d'ores et déjà à votre libraire préféré. Merci Anne-Sophie Moreau, chez son kiosquier préféré, on peut acheter lire avec profit le nouveau numéro de Philosophie Magazine, Comment recommencer. Demain, on s'intéresse aux dommages de la pollution sur le cerveau, la pollution de l'air impliquée dans une maladie neurodégénérative comme la maladie à Cordelévy, la deuxième forme de démence la plus courante au monde. Tous vos témoignages demain au 01 45 24 7000.